Couleur Terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Hollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sève, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture, et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir, ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.
Il y a bien des manières d'entrer en permaculture, bien des chemins possibles. L'un de ces chemins est de tâcher de rapprocher au maximum de soi les conséquences de ce qui est nécessaire à sa propre vie. Loin sont les centrales nucléaires, les usines à gaz, les couturières du Bangladesh. Loin aussi sont les déchetteries, le recyclage. En moins de 5 jours, le frigo que vous déposez à la déchetterie se retrouve en petits granulés dans un cargo en partance pour la Chine. Joie du recyclage qui ne résout pas tout, semble-t-il. Et que savez-vous de ce qui advient au-delà de la chasse d'eau, où filent, voguent et fuient les nutriments de votre système? Ah, c'est sûr, rapprocher les conséquences n'est pas simple et peut sentir fort. Quoique, comme le dit le dicton pas encore populaire, compost bien géré ne doit pas effrayer. Après tout, la matière organique, c'est la base de la vie, et si on veut s'éviter d'aller la chercher ailleurs, il faut bien gérer celle que l'on produit. La gestion de la matière organique, c'est le thème de notre discussion d'aujourd'hui avec Titane Houben. Bonjour Titane.
Bonjour Floem.
Avec Hélène Hollard.
Bonjour.
Et Estelle Maignan de l'association Nouveau Voyage qui propose des activités autour de l'écologie environnementale et humaine, formation, animation, spectacle. Et avant cela, elle a été chargée de mission auprès de Trièves Compostage. Estelle Maignan, bonjour.
Bonjour.
Et puis Floem pour passer les plats dans cette assiette anglaise où nous souhaitons de picorer tout ce que vous voulez. Mais d'abord, c'est le moment de répondre à vos questions, questions que nous prenons sur les réseaux sociaux, mais que vous pouvez adresser à questions@radioperma.org. Alors, nous avons une question de Anouk Shka. Voilà, c'est, je pense que c'est un pseudo, Anouk Shka, qui commence ainsi. Bonsoir, mon terrain est gelé. Dois-je le couvrir dès maintenant ou attendre les beaux jours? Combien de temps ensuite pour pouvoir semer? Merci à vous. Alors, Hélène, ou bien Estelle, si vous avez votre avis là-dessus.
Donc moi, personnellement, je mettrai la paille tout de suite. Et après, la question, quand semer, ça dépend ce qu'il va semer, qu'est-ce qu'il veut semer, ça, il ne le dit pas, il me semble, dans la question. Mm-hmm. Donc, on ne sait pas trop, on ne peut pas lui répondre là-dessus. Par contre, s'il couvre avec une bonne...
Je crois que c'est une dame.
Ah, pardon. Bah, comme c'est un pseudo, ça peut être ce qu'on veut.
Bon, bon. Il s'appelle peut-être Anouk ou Anouchka.
Bon. Bref, en tout cas, l'important, oui, c'est de mettre une couche de paille qui soit suffisamment épaisse. Et puis quand là, les conditions vont devenir printanières ou ça va se réchauffer, etc., ben, ça va se faire tout seul. Alors que si elle attend que ça dégèle, parce qu'effectivement, pendant que ça gèle, il ne se passe rien. Mais si elle attend, elle risque de ne pas être là au bon moment, donc c'est aussi bien de le faire avant.
Est-ce qu'il ne va pas y avoir un effet isolant, au contraire, contre la chaleur des premiers rayons du soleil au printemps et qu'il faudra peut-être enlever le paillage à ce moment-là?
Ça, c'est un des inconvénients du paillage. Hein. C'est-à-dire que par rapport à de la terre nue, quand on a de la terre nue qui, si en plus elle est foncée, elle va absorber les rayons solaires et la chaleur va monter plus vite que sur un terrain qui est couvert avec de la paille. Ça, c'est part tout le temps, quoi. Je veux dire, indépendamment de si c'est gelé ou pas, quoi.
Et quand tu dis suffisamment épais, pour toi, du coup, quand il gèle, par exemple, tu mettrais combien d'épaisseur?
Ah ben, moi, je ne mets pas quand il gèle ou quand il ne gèle pas. Il y a toujours de la paille, toujours quelque chose qui couvre. Et donc, au moins, la paille, c'est au moins 20 cm. Après, si on met du foin, ben, c'est à peu près le double. Si on met du broyat, ben, une quinzaine de centimètres, 10-15 cm, ça suffit. Ça dépend de ce qu'on met, quoi, comme matériau. Mais ça évitera qu'elle soit là à épier, parce que même ça peut geler, la terre peut être gelée la nuit, puis dans la journée ça va se radoucir, et puis hop, la terre sera plus gelée en surface, elle doit être gelée juste en surface pour l'instant. Mm-hmm. Donc je pense que c'est mieux de le mettre maintenant.
Ok. Et puis ben, en ce qui concerne sa question sur quand semer, quand peut-être semer. Qu'on peut la renvoyer à notre émission sur les semis, la dernière qu'on a faite, qui est peut-être déjà en ligne sur le site de Couleur Terre ou de Couleur FM, mais également sur le site de Radio Permanent.
Oui, et puis de savoir que quand la Terre va redémarrer parce que la température va monter, et ben elle aura juste à écarter la paille, et puis si elle veut semer de façon précoce des petits pois et tout ça, c'est pas un problème. Dès que la Terre elle écarte la paille, elle regarde quand la Terre est un peu ramollie, meuble, et ça lui indiquera quand est-ce qu'elle peut semer. Est-ce qu'elle
ça risque de ralentir quand même, si jamais.
De toute façon, c'est un peu l'inconvénient de la paille. Alors après, l'autre façon de faire, c'est d'écarter beaucoup plus la paille. Mais si elle les met sur de la terre gelée, il y a de la végétation aussi dessus.
Elle j'imagine, n'en parle pas.
Donc la logique, c'est qu'il y a de la végétation. On paille par-dessus de la terre ou sans l'avoir touché avant. Donc en fait, il faut aussi le temps que la végétation disparaisse sous la paille. Donc là, on est déjà au mois de janvier. Aussi bien au mois de mars, la terre peut être bonne au niveau température. Et il faut le temps que ça bouge et que l'herbe soit... c'est pas trop, il n'y a pas les informations.
Donc peut-être quelques informations, mais en tout cas, Hélène, toi, il y a la paille tout le temps chez toi, sortez couvert. question suivante de Eric Pouille. Je vais replanter ma vieille vigne d'un demi-hectare en Provence. Je vais essayer de respecter la permaculture. J'ai trouvé des cognassiers, des acacias comme fixateurs d'azote. Est-ce que des chênes verts et blancs sont fixateurs aussi? Sinon quoi? Je pense mélanger sur la rangée un fixateur, trois cèpes, un fruitier, trois cèpes, un fruitier différent, encore un autre, et trois cèpes, et un refixateur, avec du potager au milieu à la manière de jardin que je connais dans la région de Terni. Pas trop d'infos pour savoir si je fais des boulettes. Help. Alors, ça fait beaucoup d'informations, Eric, dans ta question merveilleuse. Si je la reprends, je vais essayer de respecter la permaculture. Alors, j'adore ce... Je vais répondre à ça en premier, parce que la permaculture, c'est plutôt mon domaine. Essayer de respecter la permaculture, je ne sais pas ce que tu entends par essayer de respecter la permaculture. La permaculture, c'est une éthique. Donc, c'est prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre, créer de l'abondance et la partager. Alors, souvent, on entend la permaculture sous forme les méthodes pour faire du jardinage écologique. C'est pas tout à fait exactement ça. C'est pas forcément l'association de plantes. Ça fait partie des techniques qu'on utilise en permaculture, mais ce n'est pas que ça, la permaculture. Donc, attention sur la question de la définition de la permaculture et de l'agroécologie. Donc, on y est. Ensuite, j'ai trouvé des cognassiers et des acacias comme fixateurs d'azote. Alors là, j'entendais les dames à côté de moi faire « Ah ! Jesus Christ !» Alors, le cognassier, ça fixe l'azote ?
Moi, je suis pas au courant.
Non, moi non plus.
Après, je sais pas si les cognassiers poussent en Provence, en fait. Moi, c'est ça qui est... C'est la première chose à laquelle j'ai pensé.
Ouais, c'est une rosacée, il y a peut-être besoin d'un petit peu plus d'eau que ça. Après, il peut être dans un microclimat.
Oui, mais est-ce que la vigne a besoin d'azote, quoi ?
Et ça, à mon avis, c'est le cœur de cette question-là. Parce que c'est sympathique de mettre des fixateurs d'azote entre des pieds de vigne, mais la vigne, ça pousse sur des terrains très légers, sableux, pas réputés pour être très verdoyants. Enfin, voilà, donc il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'azote. Non, je pense pas.
Mais après, c'est intéressant, moi, je trouve, de faire des essais de mélanger des arbres et de la vigne. Et de voir si effectivement des cultures... L'agroforesterie avec le maraîchage, on sait très bien que ça marche. Avec plein de cultures annuelles, ça marche. Et avec les cultures pérennes, il y a souvent plus de freins. Les gens ont peur d'essayer. Donc moi, je trouve que c'est une bonne occasion d'essayer ce genre de pratique en espaçant suffisamment pour que la vigne et les arbres puissent se développer. Et puis ensuite, les lignes de vigne, du coup, pour pouvoir cultiver au milieu. Mais je trouve que c'est intéressant, quoi. Après les essences, je reviens sur les essences d'arbres. Je pense que le mieux, c'est de regarder ce qui pousse là-bas localement et puis de voir dans la forêt, enfin s'il y a des forêts, en tout cas dans la garrigue, enfin bref, là autour de là où il va implanter sa vigne, regarder ce qui pousse. Et discuter avec les paysans du coin, voir ce qui marche bien, est-ce que ça peut être des amandiers, ça peut être je ne sais pas quoi.
Chêne vert, chêne blanc, à mon avis.
Sauf qu'un chêne, ça pousse très lentement. Donc,
puis c'est une production
Ça dépend pour faire.
Il faut savoir valoriser qui n'est pas forcément simple à valoriser. Et qui ça ne fixe pas l'azote, au passage.
Non,
ce que je sais, tout ce qui est quercus.
Par contre, des fruitiers, ça peut être intéressant comme production à 4, 5 ans ou plus, mais prendre vraiment des essences locales, quoi.
Ok, donc des bonnes pistes, Eric, dans la question où tu peux essayer des choses, faire plein de trucs. Et en même temps, observe ce qui se passe autour de toi. C'est peut-être la première chose à faire, observer ce qui se passe dans les milieux sauvages. Et puis, tâche de copier, d'utiliser des arbres de la même famille, éventuellement, des choses comme ça.
Oui, ce qui se passe dans l'environnement sauvage, mais aussi ce que les hommes autour ont déjà expérimenté. Enfin, les hommes, les femmes, hein, les paysans ont déjà expérimenté, parce que c'est pas, ça a déjà dû... être essayé, quoi.
Va voir aussi du côté des traditions locales. Mm-hmm. Fin des questions pour cette semaine. On passe au disque.
Thank you.
FM 97.1. Vous écoutez Couleur Terre et nous venons d'entendre Nadishana Trio pour son album Far and Near. Désolé pour l'accent, je ne me suis pas trop entraîné. Le titre, c'était Water Song. Ah, là, je me suis plus entraîné. On parle aujourd'hui gestion de la matière organique avec Estelle Ménian et Hélène Ollard. Et quand on parle de gestion de matière organique, on parle du compost. Et souvent, quand on parle du compost, on parle de tout mettre en tas dans un coin du jardin. C'est ça, Hélène?
Oui, ce que moi, j'appelle un pourrissoir. Quoi.
Ah, voilà, d'accord. Truc qui pue, il y a des mouches et tout.
Ben, ça, c'est pas forcé, parce que quelquefois, dans les gens, dans les fonds de jardin, ça sent pas forcément mauvais, mais disons, ils vont mettre tout ce qu'ils n'utilisent pas, et puis ils laissent faire, quoi. Mm-hmm. Et en fait, si on laisse faire comme ça, eh ben, y a des tas d'endroits où il se passera rien, où on maîtrise pas du tout ce qui va se passer, quoi.
Parce que ça veut dire quoi, se passer? C'est, il se passera
c'est
rien.
La vie, le compostage, c'est basé sur la vie microbienne, la vie des champignons, la vie des micro-organismes. Mm-hmm. Et donc, ce processus qui est apparenté, on va dire, à une fermentation, il a besoin d'avoir des conditions. C'est comme quand on fait du yaourt ou du fromage ou du saucisson ou du pain, etc. Il y a une mise en œuvre qui, avec des quantités d'ingrédients et tout ça, pour que ça fonctionne, y compris la température, enfin tout un ensemble de choses, quoi. Donc si on met comme ça, eh ben, on a peu de chances que ça fonctionne. Alors après, si on revient, mettons le pourrissoir classique dans les jardins traditionnels, on va dire, les gens mettent tout au fond du jardin. Et puis à un moment, ils vont un peu aller gratter dessous, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à de l'humus, mais ils ne sauront pas du tout comment cet humus a été fabriqué. Donc ça fera de l'humus au sens textural, mm-hmm. mais au niveau de la qualité, ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont avoir. Mm-hmm. Et si on fait du compost dans un jardin, quelle que soit la façon dont on le fait, hein, si on fait du compost, c'est parce qu'on veut apporter, c'est à la base de notre apport agronomique. On va rien apporter d'autre comme fertilisant, à peu près rien. On mettra peut-être des extraits fermentés en plus, mais on va pas rapporter des éléments sous forme minérale. Tout va être apporté par le compostage. Donc c'est important d'apporter quelque chose de qualité et qui va pas apporter des graines d'adventiste, des germes pathogènes qui sont sur telle ou telle plante parce que la plante est malade ou autre chose, quoi.
C'est ça qu'on recherche, en fait, quand tu parles de la qualité ou de ce qui s'est passé, c'est que on cherche un fertilisant de qualité, en fait.
Voilà, de qualité sur le plan de ce que ça va apporter en minéraux. Donc, qu'est-ce que ça va apporter au sol et qui donc va se transformer en humus une fois qu'on l'aura incorporé dans le sol, donc via la vie microbienne du sol, la vie biologique du sol. Et puis, ce que ça va apporter à la plante directement, parce qu'il y a des molécules qui vont être assimilables directement par la plante. Donc, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Voir quand est-ce qu'on l'apporte pour le sol, quand est-ce qu'on l'apporte pour la plante. Et puis, donc ça, c'est un aspect, on va dire, fertilisation. Et puis, il y a l'aspect sanitaire, c'est-à-dire qu'on veut apporter quelque chose qui, sans apporter des graines de plantes spontanées, on va dire, ni de germes pathogènes, donc on apporte quelque chose qui est sain. Mmh. Donc un produit qui est fertilisant, mais qui est sain. Au sens qu'il a été assaini par la fermentation, et dans la fermentation, c'est la montée en température qui va permettre cet assainissement.
D'accord.
Et le temps aussi
Le temps, c'est plus ou moins rapide. Ça peut être, selon les ingrédients de départ, ça peut être 3 mois, 4 mois, ça peut être rapide.
Le temps pour que tout ce qui est pathogène puisse se transformer aussi.
Ben, en 3 mois, ça peut être fait. Mmh. S'il y a une bonne montée en température, qu'on retourne. Là, il y a eu des essais de fait sur la plupart des germes pathogènes classiques, on va dire, qu'on peut trouver dans le sol et qui peuvent passer dans l'assiette, en fait. C'est ça le truc. Eh ben, en étuve et en compostage, et donc au niveau des températures de compost, entre déjà à partir de 40 degrés, il y a les trois quarts qui sont détruits.
Ouais. Et j'avais très vu rapidement, à partir de 30.
Oui, mais disons 40, tu as quasiment les trois quarts qui sont détruits. Ouais. Et très très rapidement.
Et on monte à combien dans un bon compost alors?
Eh ben, il n'y a pas besoin de monter haut.
Ça peut monter jusqu'à 70 degrés. Moi j'ai déjà fait des mesures. Ouais. C'est impressionnant. Plein hiver. Ça fume.
Ouais, ça peut aller très haut.
Je pense qu'on pourrait faire cuire un œuf.
Ça peut, mais ce n'est pas, c'est pas un objectif.
C'est sûr. Non, c'est pas un objectif. Bah, ça dépend, figure-toi.
Non,
parce
pour les œufs, non.
Il y a des chauffe-eaux qui sont basés là-dessus.
Ah oui, là, c'est autre chose. Si tu veux chauffer des serres.
C'est encore autre chose pour chauffer des serres et ce genre de choses. Ça s'appelle le chauffe-eau méthode Jean Pain.
Mais il y a Steve Reed qui a fait la même chose. Exactement. Qui passe en fait dans des andins.
C'est ça.
Il faut avoir quand même de la longueur. Hein. Pour pouvoir chauffer de l'eau, il faut avoir pas mal de matière.
Ça dépend du mode de vie. Alors, Steve Reed, lui, avait mis une espèce de chauffage, un radiateur dans un espèce de congélateur, et il faisait circuler l'eau à l'intérieur. Enfin bref,
oui, moi j'ai vu des serres aussi.
C'est un moyen, ça peut être un moyen de chauffer serre, et plus qu'une serre.
Mais c'est un autre objectif, parce que plus on monte en température, plus on perd des gaz sous forme de combustion, et plus on perd des éléments fertilisants.
Plus on perd plus on perd d'éléments sous forme de gaz. Oui, d'accord.
Oui,
d'accord.
Voilà. Donc plus on perd des éléments qui sont fertilisants. Donc ça dépend si on fait du compost pour chauffer ou si on le fait pour notre sol, pour notre culture. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Mais par exemple, en biodynamie, on dit même qu'à 37 degrés, ça suffit. Il n'y a pas besoin de monter plus haut. Après, il faut arriver à maîtriser la montée en température. Ce n'est pas toujours évident. Selon ce qu'on a comme matériaux de départ,
les quantités, facile, quoi, voilà, c'est ça. Ouais.
Si c'est du cheval, enfin du fumier de cheval. Du...
Oui, parce que le cheval en lui-même composte.
On peut, nous on avait mis dans les composts, on mettait nos cadavres de poules, un veau qui était mort-né une fois en la mi-temps. On peut mettre tout ce qu'on veut. Hein.
D'accord. Tu retrouves les os.
Toute la matière organique se transforme.
Tu retrouves les os, si c'est des gros os, si tu veux, mais un veau, par exemple, où c'est quand même encore très cartilagineux, tout ça, mais même des vieilles poules,
Oui. tu retrouves rien. Puis il y a pas mal de phosphore dans les os, donc effectivement, ça doit se disputer pour avoir le nutriment.
Après, les os, on peut les faire brûler pour les mettre dedans. Enfin bon, mais... Non, le compost, c'est très, très puissant. À partir du moment où on maîtrise cette montée en température et où on retourne pour être bien sûr que tout soit passé par le cœur du tas, parce que c'est au cœur du tas en fait que ça chauffe, quoi. C'est pas tous les bords. Donc à partir du moment où on maîtrise ça, on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut. Et compost, ça vient aussi du mot de mélanger, composer. Et plus on met de matériaux différents, et mieux ça va fonctionner, tout en respectant des règles qu'on n'a encore pas vues. Mais...
Ouais. Bon, on va en parler peut-être dans la deuxième partie.
D'accord.
Rester peut-être sur nos questions générales dans un premier temps. T'as mélangé tout à l'heure en disant qu'il y avait une vie microbienne, bactérienne, de champignons. Mais dans ma tête, il y a plusieurs types de compost. Il y a le compost sur base de champignons, qui est le compost à froid, qui ressemble peut-être au pourrissoir dont tu parlais tout à l'heure. Et il y a le compost à chaud, basé sur la vie microbienne, et du coup, là, de la fermentation. Pas la vie microbienne, la vie bactérienne, excusez-moi, parce que ce soit les champignons ou les bactéries, c'est des microbes, hein, c'est pas très une classe très carrée. Est-ce que ça existe effectivement ces différentes classes-là de compost? Je vais peut-être poser la question à Estelle, c'est les différents types de... Ou est-ce que c'est un truc que j'ai appris je ne sais où et puis qui m'est resté dans un coin de tête
Moi, je n'ai pas entendu parler qu'il y avait vraiment des techniques à chaud ou à froid. Alors ça, je découvre si ça existe. Moi, j'ai plutôt jusqu'à présent entendu parler de la pratique qui fait qu'on va faire monter en température avec un équilibre d'humide et d'oxygène pour faire développer une certaine catégorie de bactéries qui sont les bactéries aérobies. Et justement, on va essayer de bien faire qu'il y ait de l'oxygène. Des fois, on dit qu'il faut arroser le tas, etc. Mais si on arrose trop, effectivement, ça va faire développer des bactéries anaérobies.
Et ça va puer.
Et bien, c'est ça qui sent mauvais souvent. Ouais, voilà.
C'est plutôt des méthanogènes, des ammoniaques.
Alors,
ils crient des trucs à base d'ammoniac et c'est pour ça que ça pue. Ouais.
Oui, puis il y a des germes pathogènes. La plupart des germes pathogènes vivent en milieu anaérobie. Donc,
d'accord.
Du coup, après, quand on va l'utiliser, on a plusieurs risques. Après, je ne sais pas si tu avais fini. Parce que sur ta question, compostage à froid, c'est le compostage qu'on appelle aussi le compostage de surface. Mais ce n'est pas du tout la même pratique, justement. C'est-à-dire qu'on va mettre une couche de végétaux sur le sol qui vont être transformés par les champignons. Mais ça va être que ça, enfin, il n'y aura pas de face chaude.
On n'est pas très loin du paillage.
Par contre, c'est pas tout à fait pareil parce qu'on met. C'est plutôt si on mettait du paillage en toute petite quantité pour que ça se transforme. Alors que quand on met du paillage, nous, pour couvrir le sol, on veut que ça reste tout le temps sur le sol. Donc même si ça se dégrade un petit peu à la lisière entre le sol et la paille, l'objectif n'est pas le même. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que dans le compostage en tas, donc ce que moi j'appelle le compost royal, il y a différentes phases.
Compost royal.
Oui, c'est vrai, ça fait un peu, je pourrais dire.
Ça fait couscous compost royal, mais c'est bien. Non, mais moi ça me va très bien, le compost royal.
Il y a plusieurs phases. Et donc dans chaque phase, à chaque phase interviennent des organismes différents. Et les champignons interviennent aussi. Ce n'est pas que les bactéries. Il y a les champignons, il y a même des toutes sortes d'animaux qui vont venir, hein, des crustacés, plein de choses. Donc
des crustacés ? Mon Dieu, il y a des langoustes dans mon compost. Tiens, on va la recevoir, celle-ci, comme question.
Ah oui, parce que c'est normal, je trouve une langouste dans mon compost.
Qu'est-ce que dois-je faire ? à manger.
En fait, c'est voilà, des
cloportes. C'est des cloportes, les crustacés. Donc c'est... Oh, tristesse.
Peut-être qu'on pourrait les manger. On dit bien qu'on va manger.
C'est pas des anisopodes, c'est des isopodes.
Ah. Ouais. Essayez. Enfin, ouais, en tout cas, voilà, il y a différentes...
Les isopodes, c'est difficile à décortiquer quand même.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a différentes phases. Quoi. Mm-hmm. Donc les champignons interviennent parce qu'ils sont capables de dégrader la lignine, par exemple, que les bactéries ont besoin que ça soit dégradé avant qu'elles puissent intervenir. Ouais, donc il y a plusieurs étapes.
Et les bactéries, elles sont là vraiment à toutes les étapes, puisque en fait, en premier, donc, elles vont commencer à ramollir la matière organique pour la rendre plus facilement digérable pour tous les décomposeurs qui vont arriver ensuite. Et du coup, elle va se retrouver aussi à l'intérieur des organismes des décomposeurs. Et du coup, elle va se retrouver aussi, elles vont se retrouver dans le compost aussi.
Est-ce qu'une manière de gérer la matière organique, parce que moi, c'est un petit peu celle que j'ai chez moi, ma manière de gérer mes déchets de cuisine, c'est de les donner aux poules, qui sont mes composteurs sur pattes, quoi, en fait, quelque part, parce que derrière, quand ça ressort, c'est une belle matière, mais qui a peut-être besoin d'un peu de temps.
De composter.
Elle a besoin d'un petit peu de temps pour être bien, mais...
Oui, mais la fiente, tu peux la mettre à composter, parce que si tu la mets pure comme ça, c'est très riche, mais ça peut brûler des cultures et tout ça. Donc la fiente, tu peux la réincorporer dans un compost de fumier de vache ou d'autres choses, mais pas la mettre comme ça direct, quoi.
Moi, je sais que ça fait un fumier de poule avec des... généralement, j'en mets un peu, je ne mets jamais au même endroit. J'ai pas eu trop de soucis pour l'instant de grosses brûlures. J'ai deux poules, qu'on soit bien clair. Je n'ai pas, un troupeau de 25 poules ou de 150 poules qui vont faire leur mètre cube de
ouais, ça, c'est une question de proportion.
Donc, voilà, moi,
Et tu as un compost à côté.
Et à côté, il y a le compost. Ouais.
Donc, elles ne mangent pas tout.
Ben non, parce qu'elles ont un petit peu problème pour finir de bouffer tout ce qui sort de la haie. Parce que j'ai 150 mètres de haie pour deux poules, c'est un peu beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup de fumier. Mais donc ça peut être aussi une manière d'aborder la question. Quand j'étais en ville, mon compost, j'appelais ça le compost, mais mes déchets de cuisine, ils allaient directement dans les balconnières. Et puis ça allait très bien, ça couvrait le sol, ça se dégradait très lentement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vie dans mes balconnières. Ouais. C'était des grosses balconnières, mais c'était une manière d'enrichir mes vieilles balconnières qui étaient là depuis
longtemps.
En surface, ouais. Et puis j'avais laissé faire.
Hein. Tu peux mettre des épluchures même dans un jardin, tu les mets comme ça, mais après tu as le problème. D'abord, ça ne veut pas beaucoup. Le rendement en humus, si tu veux, du compostage en surface est très faible par rapport au rendement d'un compostage en tas. Quoi. Et puis après, c'est pas sur le plan esthétique, bon, plus ou moins joli, quoi. Voir comment ça
les peaux de melon, les couper en petits morceaux.
Ça, donc c'est ça. Après
ça intéresse pas mal de prédateurs aussi. Enfin,
après, oui, t'as plus rien que ça.
Les oiseaux, les rats, mangeurs. Les rats.
J'habitais vers Avignon et je me disais, je vidais le seau d'épluchures en me disant, je le laisse sécher puis après je le mettrai dans le compost parce que j'avais pas assez de matière pour faire le compost tout de suite. Quand je revenais, il n'y avait plus rien. Ouais. Il m'avait piqué ma matière organique.
Terrible. Bon, allez, petite plage musicale. Et puis ensuite, on voit comment on fait en pratique. Parce que là, on vous a batté avec ces idées-là. Vous saurez bientôt faire un compost. Thank you. FM 97.1, vous êtes dans Couleur Terre et nous venons d'écouter Mothbow Solo de Nadishana Trio sur leur album Far and Near. Nous vous avons promis de vous parler du compost. Comment faire un vrai compost? La recette du compost royal selon Hélène Hollard, quelle est-elle? Quelle est-elle? Oui, c'est ça, c'est une bonne question pour commencer. Comment on fait un compost royal?
Moi, le mien, il est pas royal. Mais...
Bon, alors, commençons par le compost pas royal de Estelle.
Vas-y, démarre par le compost royal.
Allez, donc, on prend déjà des matières organiques.
Hein? 250 grammes.
Non, l'idée, alors, on ne peut pas donner un poids. On peut parler éventuellement en volume, mais disons que pour les dimensions... Alors, c'est pareil, là, on va parler en général. Et puis après, on va voir que dans un jardin, par exemple, où il y a un composteur en plastique et tout ça, ça ne marchera pas comme ça. Mais l'idéal, c'est d'avoir de faire en tas, donc, des tas qui fassent 1m20 minimum, quand même, de large. La même chose en hauteur, et puis, on va dire pareil aussi en longueur. Après, la longueur peut être infinie, hein. On voit des andains de compost, ça peut faire 1 km de long. Hein. Mais le minimum, c'est quand même d'avoir, donc, on va dire, 1m20 sur 1m20 sur 1m20. Donc, je vous laisse calculer le cubage, parce que j'oublie tout le temps. Mais...
Ok. Et tout ça, c'est le volume du compost. Compost.
Un mètre cube de matière. De départ.
Ah.
De départ. Sachant qu'à la fin, il y a une transformation,
oui,
donc forcément, tu en perds beaucoup.
Je veux dire, c'est le volume, on va dire, de tes matières de départ.
Voilà. Sachant que dans les matières, donc, il y aura deux types de matières et qu'il y aura ce qu'on appelle les matières sèches qui peuvent être de la paille, du broyat, tout ce qu'on veut, de la matière donc sèche, ça veut dire que c'est pas le contraire de mouillé, c'est le contraire de en pleine végétation, c'est-à-dire il y a plus de sève dedans.
D'accord, donc c'est ce que moi j'appellerais plutôt de la matière carbonée.
Oui, on peut dire carbonée, mais après donc, on rentre dans les termes. Donc,
paille, feuilles séchées.
Alors feuilles séchées, mais on mettra pas que des feuilles sèches parce que ça ira pas. Le bois, on mettra pas en tant que tel parce que c'est trop grossier.
Les copeaux,
c'est pareil, on mettra pas que des copeaux, mais enfin donc c'est toutes ces matières en tout cas qui ont plus de sève à l'intérieur. Et ça va représenter les 2/3 de notre volume. Donc c'est vraiment ça qui est important de trouver. Mmh. Après, la matière verte. Donc matière verte, ça peut être le fumier, c'est-à-dire c'est pas forcément la couleur. Ça peut être du fumier.
C'est pas vert le fumier.
Non. Ça peut être vert, mais c'est pas vert.
C'est vrai.
Donc voilà. Donc le fumier frais, c'est de la matière verte. Après, tout ce qui va être donc riche en azote, hein, donc ça peut être tous les déchets de jardin frais, de légumes, etc. Ça va représenter 1/3. Et en fait, ça va servir plus de levain microbien. De nourriture à toutes les bactéries qui vont travailler dans le compost, plus que sur la quantité d'humus. Ce qui va faire l'humus, c'est vraiment la matière sèche. C'est pour ça que c'est important d'en mettre, d'abord parce que pour que la fermentation réussisse, et puis parce que c'est ça qui va nous faire de l'humus une fois que le compost sera mis en terre et transformé par la vie biologique. Donc il faut de la matière sèche, de la matière verte, et ensuite il y a plusieurs façons de faire, mais le plus facile quand on a des matières très hétéroclites, c'est de faire par couches. Donc, quand on fabrique le tas, on met de la matière sèche. Après
attends,
on met
juste avant qu'on parle de couches, parce que matière verte, on a parlé des matières sèches, on a donné quelques exemples, et puis c'est pas si évident que ça d'arriver à déterminer la différence entre les matières vertes. Donc, par exemple, des tontes de gazon, tu rentres ça dans de la matière verte ?
Quand c'est frais, oui, et quand c'est sec, matière sèche.
Matière sèche.
Tout ce qui n'est plus en sève.
D'accord, ce donc sec. Les feuilles d'arbres, genre, on taille en vert, par exemple, au mois de, j'en sais rien, août, je vais dire une bêtise encore, je sens que je vais me faire avoir.
Printemps.
Non, au printemps. Bon, moi, tu tailles quelque chose, toi, c'est vert.
Que tu tailles quelque chose de vert, tu tailles des haies parce que tu n'as pas eu le temps le reste du temps, c'est vert. Ça rentre dans le vert.
Alors,
même le bois?
Oui, mais le problème, alors, ça c'est parce qu'il y a d'une part, il y a ça, l'équilibre matière sèche, matière verte. Mm-hmm. Donc matière sèche, si tu te rappelles que c'est quand il n'y a plus de sève à l'intérieur, tu as la réponse si tu veux. Et matière verte, ça va être tout ce qui est encore riche en sève. Quoi.
Donc les déchets de cuisine, pour la majorité, ce sera plutôt vert. Ok, d'accord.
Et après, c'est aussi le calibre des choses, c'est-à-dire que tu ne vas pas mettre un. Parce que donc, pour réussir le compost, le mélange de départ, on dit que le rapport C sur N doit être d'environ 30.
C sur N, c'est carbone sur azote.
Donc pour faire ça, c'est pour ça que je vous dis ça, 2/3 de matière sèche, 1/3 de matière verte. Mais les matières doivent être homogènes, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des gros morceaux et des tout petits, sauf si on veut avoir un but de drainage. Mais sinon, on met des matières qui soient homogènes.
D'accord, donc à peu près toute la même taille, granulométrie. Voilà.
L'idéal, c'est ce qu'on appelle le fumier pailleux, c'est-à-dire de la paille. Qui a été broyé par les pieds des vaches ou d'autres choses, d'autres animaux, et puis mélangé avec leurs excréments.
D'accord, donc ça c'est déjà fait quoi en pratique.
Donc le mélange est déjà fait. Et là on a donc le fumier frais qui est la matière verte, et puis beaucoup de paille, donc à condition que les vaches soient paillées en grosse quantité, ça fait le mélange idéal. Mmh. Et au départ le compost a été fait avec le fumier. Hein. C'était pas fait pour limiter les déchets qui sont importés en déchetterie par les collectivités, ni dans les jardins. C'était fait pour les agriculteurs, pour fabriquer leur amendement et leur engrais au niveau agronomique. Quoi. Donc le mélange était idéal. Et maintenant, quand on le refait, souvent dans les villes, les gens manquent de matière sèche. Donc ils sont obligés de chercher du broyat.
Du carton, ça pourrait le faire? Ah, t'aimes pas ça,
non,
toi.
Non,
hein.
Moi, j'aime pas le carton.
Moi, j'aime bien, j'avoue que j'aime bien, de temps en temps, pailler avec du carton, parce qu'en ville, c'est quand même... C'est moche, et c'est un vrai refuge à limaces, comme beaucoup de paillages, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est souvent la matière organique qui est quand même très, très abondante en ville, c'est le carton.
Hein. Oui, mais moi, ce que je trouve intéressant, même quand on est en ville, d'abord, maintenant, les syndicats, ceux qui gèrent les déchets en ville, ils sont obligés de broyer les déchets végétaux, donc on peut aller là où les déchets sont broyés et en trouver. Donc après, ils sont effectivement quelquefois compostés comme vers Voiron et tout ça, mais on peut trouver une source en tout cas de matière sèche. Et puis c'est aussi une occasion d'aller rencontrer des agriculteurs qui existent encore pendant qu'il y en a, et de voir qu'est-ce qu'ils ont comme matériaux, de voir comment ils travaillent et tout ça quoi. Sachant que par exemple si on prend du fumier dans son jardin, si on fait prendre du fumier à condition qu'il soit d'un élevage bio bien sûr, et qu'on le fait venir et qu'on mélange avec nos déchets de cuisine qu'on a stockés pendant un certain temps, et puis des feuilles mortes, et puis un peu de copeaux, un peu de sciure, un peu de viande de poule, un peu je sais pas quoi, un maximum de choses mélangées, ça ira très bien.
Bon, alors revenons, j'ai fait une digression sur qu'est-ce qui est vert, marron, et qu'est-ce qui est marron, clair, foncé.
Oui, parce que c'est bien
du gazon.
D'avoir tous les ingrédients en détail, comme ça, c'est bien.
Le gazon, par exemple, t'as fauché, et tu le mets en gros paquet vert, ça, tous les gens ont fait l'expérience, ça va pourrir.
Voilà, ça
fait noir, ça fait gluant,
ça sent l'ammoniaque,
ça pue, voilà,
horrible.
Donc ça, c'est pas terrible, quoi. Alors que si on le laisse bien sécher, après, ça fera de la matière sèche, et même s'il est remouillé parce qu'il pleut, il va rester sec.
Ouais,
matière sèche, c'est pas le contraire de mouiller. Ouais. C'est ça qui est important de comprendre. Parce que souvent, les gens demandent. Mais non, c'est vraiment le fait que ça ait séché au niveau de la végétation. Quoi.
Alors, tu étais en train de nous parler des couches.
Alors voilà, on peut faire comme ça en couches. Donc, on met de la matière sèche.
Parce que avant toute chose, donc si j'ai bien compris, avant que tu fasses des couches et que tu fasses tes couches les unes sur les autres, tu as tout tes tas à côté.
Ah bah oui, voilà. Tu as tout sur place. Sinon,
tu as tout sur place. Oui. Donc, tu as stocké ta matière pouilleuse, verte, juteuse, pendant un certain temps avant de pouvoir faire ton tas de compost.
Après, tout dépend comment on est organisé. Hein. Si on est dans un jardin collectif, on peut avoir stocké dans un composteur, par exemple. Si on est chez soi, moi, par exemple, là où je suis en ville, parce que j'ai quand même plus l'expérience de compost agricole, mais enfin, je commence à en avoir pas mal en ville aussi. Ce que je fais chez moi, c'est que je fais déjà, quand j'ai un petit seau, après j'ai un grand seau, et après je vide le grand seau. Et dans le grand seau, je mets déjà de la matière sèche, des feuilles mortes, des feuilles de glycine, n'importe quoi, à chaque fois que je mets du vert. À chaque fois que je mets mes épluchures, je remets un peu de sec.
D'accord.
Après, je vais stocker ça sur un tas, et quand mon tas est suffisamment gros, là, je fais vraiment mon compost. Alors, il y a déjà une partie qui sera transformée en bas, mais je la remélange quand même pour être sûr que tout va passer à la température et qu'il n'y aura pas de germes et tout ça.
D'accord, donc si j'ai bien compris, tu prends tes déchets de cuisine, ensuite tu mets un peu de sec par-dessus, ouais. Et jusqu'à ce que ton gros seau soit plein, et ensuite ce gros seau, tu vas le mettre dans ton...
Je mets sur un tas dehors, et quand ce tas est suffisamment gros...
Et ça, c'est du verre ou du sec, alors, du coup?
Ah bah, ça dépend, au fond, ça, c'est resté humide, et puis dessus, c'est un peu moins humide.
D'accord, donc après, tu t'en serviras comme du verre.
Voilà, je fais le compost en plusieurs fois, quoi.
D'accord. Okay.
Parce que j'ai pas assez de volume, très souvent, c'est un peu le problème, il n'y a pas assez de volume pour faire tout de suite le compost. C'est d'accord. Pas comme quand tu es à la campagne, tu sors le fumier de ton étable, ben tout de suite, tu as le volume en conséquence. Ouais. Donc, je fais ça. Et puis, à peu près deux fois par an, je prends la fourche, je fais le compost en couches et je rajoute. Là, je fais vraiment le compost. C'est-à-dire, j'estime que le compostage démarre là. Donc, je mets la matière sèche que j'ai. Donc, moi, j'ai beaucoup. J'ai de la paille, j'ai des feuilles mortes, j'ai pas mal de choses. Du broyat, un peu de sûre aussi, si je veux. Et ben là, je fais les couches, j'arrose parce qu'il faut qu'il y ait un peu d'humidité pour que la vie microbienne démarre.
Et là, après, je couvre le montant. Quand tu dis je fais les couches, tu alternes donc ton tas, voilà, que tu as déjà fait, ta matière stockée, plus des déchets secs.
Tu considères...
Je complète voilà. S'il y a besoin. Si je vois qu'il n'y a pas assez de matière sèche, je remets du sec. Si je vois qu'il n'y a pas assez de verre, je remets du verre. Et voilà, et je fais le tas qui soit d'un volume suffisant pour que je sois sûre que la fermentation puisse bien fonctionner.
Le reste du temps, c'est étalé, en fait.
Le reste du temps, c'est juste stocké, quoi. Pour pas que ça pourrisse non plus. Donc, c'est pour ça que je mets de la matière sèche au milieu, pour pas que ça pourrisse.
D'accord,
et après, une fois que j'ai fait mon tas, je l'arrose suffisamment pour qu'il y ait l'humidité et je le couvre. Mm-hmm. Et ensuite, donc, je laisse démarrer et je surveille ce qui se passe. Et puis, en gros, on va dire une semaine, 10 jours après, la température a monté. Donc là, j'enlève la couverture et je retourne mon tas qui a déjà baissé énormément. Ça, c'est un critère de surveillance du compostage, c'est du compost, c'est que le volume du tas a baissé au moins de la moitié en 10 jours. Hein. Puisque c'est normal, les matières sont consommées par les micro-organismes, donc forcément, ça
diminue. Tu mets une couverture par-dessus?
Oui.
Une couverture...
Je mets de la paille en général, soit les tapons de paille. Soit ça dépend où je suis. Hein. Après, je voyais un jardin, il y avait une balle ronde de luzerne qui était moisie, enfin qui était plus bonne à la consommation animale. On avait mis ça en grande couche. On peut mettre des toiles de jute, mettre quelque chose qui respire, mais qui protège le tas quand même du dessèchement. Quoi. Et puis ça évite de perdre trop d'eau.
Et après tes 10 jours, une fois qu'il est monté puis redescendu,
je le retourne.
Tu le retournes à la bêche?
À la bêche, non, à la fourche.
Ah. Pardon, oui. Oh, mon Dieu.
Je vais pas me fatiguer. À manier une bêche.
Non, je
le retourne, donc je remets.
Je
diminue les proportions, si tu veux, pour concentrer et garder quand même un volume. Toi, je reconcentre les matières. Et puis là, je réarrose s'il faut, mais je rajoute rien.
J'ai vu qu'il y avait d'autres outils pour retourner le compost, des gros ressorts, des machins comme ça.
Alors c'est pour aérer le compost, plus que pour le retourner. Il n'y a que la fourche.
Et puis c'est trop, il faut monter sur les composteurs. Enfin c'est ça aussi, les gens ils inventent des trucs, mais quand on regarde la gymnastique que ça fait faire aux gens, la plupart du temps les gens ne le font pas parce que c'est trop compliqué. Pour ça je disais dans les jardins collectifs, ce que souvent je fais, c'est que on stocke, donc comme je vous disais tout à l'heure, dans les composteurs en plastique, en bois, enfin tous les modèles qu'on peut trouver. Quand les composteurs sont pleins, on les démonte, parce que la plupart du temps ils sont démontables, on les enlève. Mm-hmm. Et d'ailleurs quand on voit une tranche de composteur, on voit bien comme c'est hétérogène. Donc on met à côté, on fait les couches et on complète, parce qu'on a toujours quelque chose de matière sèche sous la main. On arrose et on couvre, et là le compostage démarre. Même si c'est pas au départ homogène.
Alors avec Hélène, tout à l'heure justement, on discutait et on débattait un peu de différentes façons de faire. Et du coup, je lui expliquais que moi, j'avais plus une habitude de pratique de jardin plutôt qu'agricole. Et que, en fait, j'avais plus, dans les ateliers, expliquer aux gens qu'on pouvait... accumuler en fait les déchets organiques de sa cuisine et de son jardin dans son composteur, et au fur et à mesure rajouter des déchets secs par-dessus, et de brasser en fait les quelques 20 premiers centimètres de surface au fur et à mesure qu'on rajoutait des déchets.
Et là, tu as une montée en température qui est suffisante?
Là, tu as une homogénéité l'organisation des déchets qui fait que ça évite qu'il y ait des poches de fermentation qui se fassent à certains endroits avec certains déchets. Et ça permet aussi de mélanger tous les déchets entre eux et puis de créer justement des poches d'air uniformes. Enfin voilà, que ce soit uniforme au niveau de l'humidité et de l'oxygène. Et du coup, effectivement, quand le composteur est plein et qu'on va le vider, nous, ce qu'on expliquait aux personnes, c'est qu'on pouvait faire deux tas, c'est-à-dire prendre retirer ce qu'il y avait sur le dessus qui n'était pas encore complètement composté, et puis prendre ce qu'il y avait en dessous, et ça, on pouvait l'utiliser pour le jardin, et remettre en fait la partie supérieure dans le fond du composteur et recommencer encore un cycle comme ça. Donc, je crois que les pratiques sont très différentes et variées. Voilà.
On voit après. Je vois qu'elle a une suite. Réaction. Mais je crois que c'est le moment de s'écouter Nadishana Trio pour son titre Sanskar Valley. FM 97.1. C'était Nadishana Trio pour son disque Far and Near. Nous parlons encore matière organique, nous parlons essentiellement compostage aujourd'hui, et Estelle Maignan nous parlait de sa manière à elle de faire le compost qui suscitait des réactions. Nous avons d'un côté Estelle Maignan qui est pour plutôt faire un petit mélange des 30 premiers centimètres quand il y a de la matière, et de l'autre côté nous avons poids lourd compost 1m20 par 1m20 par 1m20
que 1m73.
Ah non, mais c'est pas. Non, je me permettrai pas de vous traiter de poids lourd, madame Ola. pas du tout. Non, quand tu fais un compost, toi, tu le fais d'un coup avec un gros tas, et il faut qu'il monte bien en température, ouais. Il est sous sa couverture, oui, et quand tu te sers d'un composteur, c'est essentiellement le composteur du commerce en plastique, là, tu t'en sers pour stocker de manière intermédiaire des matières, ouais, jusqu'à ce que tu montes ton tas, que tu retournes à la fourche, et pas à la bêche. Et du coup, tu avais une réaction par rapport à ce soir, à la manière dont Estelle proposait de faire...
Juste un mot, au début, dans les jardins collectifs, parce que ça fait un moment que je travaille dans les jardins, je ne faisais pas comme ça. C'est-à-dire, je prenais le composteur, je me disais, ça va marcher, on remue, machin, les gens... Et en fait, ça ne fonctionnait pas, quoi. Mmh. Et en plus, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on ne puisse pas mettre tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, dans un compost, comme on a vu tout à l'heure, un compost en tas, eh ben, en fait, on peut mettre des graines qui sont germées, on peut mettre des plantes qui sont malades, on peut mettre tout ce qu'on veut, et plus on va diversifier, et mieux ça va fonctionner. Parce que, donc on peut mettre les graines et les pathogènes, parce que ça va être assaini et détruit par la montée en température. Parce qu'en fait, dans le compostage, dans la fermentation, il va y avoir un phénomène biochimique, avec en plus des fabrications de biotines, enfin des substances qui n'existeront pas dans les autres types de compostage, et donc qui vont être utiles après pour la vie biologique du sol. Et donc, les germes pathogènes vont être détruits. Les graines, les adventices, à la limite, c'est pas qu'on s'en fiche, mais après, si on couvre dans notre jardin et tout ça, on sait qu'on n'aura pas trop de difficultés à les enlever. Mais en tout cas, elles sont détruites aussi là. Donc, on peut vraiment tout mettre dans le compost. Et
même,
ça, c'est vraiment important.
Même les pots de citron, par exemple.
Les pots d'agrumes, oui, complètement.
Après, faut peut-être je recommande.
Ah bon, tu recommandes, Estelle?
Ah oui, je recommande. Parce qu'il y a des croyances, en fait, par rapport à ce qu'on peut mettre et ce qu'on ne peut pas mettre. Et,
les coquilles d'œufs.
Les coquilles d'œufs, les agrumes. Mettez les agrumes bio de préférence, mais mettez les agrumes.
Après, disons, les agrumes, la croyance est venue aussi du fait que dans les pots d'agrumes, il y a des huiles essentielles et que les huiles essentielles sont bactéricides, puisque c'est leur qualité première. Donc, en fait, c'est une question de proportion. Et comme on essaie, quand c'est généralisé, on va dire, on arrive à dire des choses qui sont finalement fausses. On dit, mettez pas de plantes en graines, mettez pas de plantes malades, mettez pas d'agrumes, pour être sûr que ça va fonctionner. Mais en fait, si on maîtrise et qu'on met pas plus de 10% de quelque chose, par exemple les agrumes, si on met 10% de peau de citron, c'est déjà citron orange, c'est énorme. Et on peut aller jusqu'à 10% de matières qui sont, comment on pourrait dire, non bénéfiques au compostage, sans que ça empêche le compost de se faire.
Qu'est-ce que tu appellerais des aiguilles de pin?
Et ben, par exemple, un compost qui a foiré, par exemple. Parce que le compost, ça peut se rater. C'est comme du fromage, on peut rater. Donc, quand il a raté, on peut en remettre à peu près 10%. On peut mettre donc des pots d'agrumes, on peut mettre...
aiguilles de pin, je disais.
Aiguilles de pin, feuilles de platane, laurier,
tout ça, on peut mettre. Alors après, c'est... Moi, tout ce qui est en branche, par exemple, tuya, le pin, tout ça, le faire pré-sécher, quand on peut, c'est mieux. Que ça soit déjà broyé, puis que ça reste un peu à pré-sécher avant de mettre dans le compost. Mais en tout cas, on peut mettre des tas de choses, à condition de ne pas en mettre des grosses quantités, parce que l'ensemble du volume va fonctionner et va entraîner et va rectifier le tir. Et donc ça
c'est
va
comme la société, en fait. Hein. Si dans l'ensemble fonctionne bien, il peut y avoir...
Je ne sais pas si c'est les mêmes pourcentages.
Bon.
Et je ne sais pas si ça se composte.
Après, il y a autre, ce qui est, pour moi, ce que je trouve essentiel, c'est de maîtriser cette fermentation et après ça s'accompagne, c'est-à-dire que on va regarder comment il fait chaud dans le compost, on va regarder s'il est sec, on va regarder qu'est-ce qui se passe dedans, etc. On va
pas
le laisser
trop sec, mais il faut pas que ce soit trop mouillé.
Voilà, il faut qu'il y ait de l'eau et de l'air mélangés, sachant que ce que disait Estelle tout à l'heure, les micro-organismes sont aérobies dans le compost, c'est ça qu'on va rechercher. Et donc, après, on va regarder que les conditions soient bonnes, que ça évolue correctement, qu'il n'y a pas un chien qui est venu gratter. Nous, notre chienne, elle a gratté pour se coucher dedans parce qu'il faisait bon. Ben voilà, donc, il fallait le refaire. Le mettre sur un endroit, le fabriquer à un endroit qui n'est pas trop loin de l'eau et où on passe régulièrement. Parce que comme ça, ça permet de voir son compost. Si on le met au fond du jardin, ben, logiquement, on n'y va jamais. Donc, on n'y va que quand on va mettre...
Sauf si à la porte des poules et on y va tous les jours.
Oui, voilà. Mais en tout cas, mettre dans un endroit où on passe régulièrement, quoi. On passe tous les jours.
La zone 1, quoi. Voilà,
on voit, oui.
Alors, quand même, je voudrais dire que dans un composteur aussi, et même en faible quantité, ça chauffe quand même. Enfin, le processus se fait quand même. Même dans un lombricomposteur, donc qui est hors sol, il y a une activité bactériologique et en fait, ça chauffe, quoi. ça chauffe. Oui, oui. Donc le processus se fait quand même après.
On ne peut pas parler de lombricompostage. Oui,
parce que lombricompostage, c'est un autre, oui, c'est un autre type de compostage.
Oui, il aurait fallu en parler à 3 minutes de la fin de l'émission.
Mais comme ça,
c'est
à des échelles différentes. C'est juste pour informer en fait les auditeurs.
Et puis le lombricompost, c'est autre chose, quoi, parce que ça assainit le compost par le passage dans l'organisme des vers de terre. Donc la montée en température, c'est pas ça qu'on recherche le plus. Il peut y en avoir parce qu'il y a
de la vie, tout ça.
Dans le lombricompostage, c'est vraiment les sucs qui sont sécrétés par les vers qui vont désinfecter, assainir le compost. Mais ça n'a pas la même qualité agronomique non plus.
Oui, c'est sûr.
Donc c'est pas la même texture, c'est pas pareil comme produit, quoi. C'est sûr que de traiter la matière organique,
compost,
en plus.
Compost, mais c'est pas pareil, quoi.
Quand on gère la matière organique, on peut parler aussi des engrais verts, on peut parler donc compostage de surface.
On aurait pu parler des toilettes sèches aussi.
Des toilettes sèches, voilà.
Ouh, je sens qu'il va y avoir une autre émission sur le thème, à mon avis. On se reverra, amis des composts. Parce que tout ça, ça porte le nom de compost, mais en fait, ça pourrait porter des noms différents.
C'est les composts, quoi.
Oui, c'est les composts. Parce qu'un compost qui est passé à haute température, c'est pas la même chose que.
À haute température, 37 degrés, c'est pas une haute température.
Non, mais 60, tu vois, si ça peut monter jusqu'à 70, pour moi, c'est.
C'est, non, mais c'est on ne le cherche pas. Moi, j'ai vu un agriculteur, son compost avait brûlé, mais c'est pas du tout l'objectif.
Brûlé.
Il avait pris feu.
Ah, pris feu, carrément.
Avec le méthane.
Parce qu'il avait chauffé trop. Après, si on prend du fumier de vache et qu'on en met un gros tas et qu'on arrose et qu'on laisse faire, enfin bon. Ça peut monter très très haut, mais
moi,
c'est vraiment l'objectif.
J'ai vu
pas
le foin, les bottes de foin, prendre feu et mettre feu à des granges parce que le foin pas assez séché était mis en balles compactées et que du coup l'extérieur de la balle isolait
vrac,
l'intérieur et l'intérieur chauffait jusqu'à ce que ça prenne feu.
Les incendies de granges, il y en a beaucoup comme ça. Enfin, il y en a moins maintenant parce que les gens font plus comme ça, mais.
Bon, non, c'est cas, sûr. On risque de reparler de matière organique.
Oui, c'est la base de l'agriculture quand même. Surtout que nous, on n'apporte rien d'autre. C'est en même temps l'amendement et en même temps l'engrais de nos jardins, quoi.
Bon, ben, faudrait presque qu'on fasse une deuxième émission dans la foulée. C'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui. Ce sera pas pour la semaine prochaine, mais on reparlera probablement de matière organique. Estelle, merci beaucoup. À bientôt.
Merci de votre accueil. À bientôt.
Et puis Hélène, à bientôt.
Eh ben, à bientôt.
À bientôt Hélène. Floem, merci à vous. Merci Laurent.
C'était Couleur Terre, une émission compostée à chaud, peut-être, grâce aux moyens techniques de Couleur FM en Isère. Une émission préparée par Titane Houben avec Laurent Forcheron à la technique, animée par Floem Sev de Radio Permaculture, avec Hélène Ollard et aujourd'hui Estelle Maignan de l'association Nouveau Voyage. Vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger, mais aussi la soutenir sur radioperma.org. La soutenir, ça veut dire que vous pouvez la diffuser, la faire écouter à tous les membres de votre jardin partagé, ou même carrément nous donner des sous, si vous voulez, voire vous inscrire sur la newsletter, puisque vous pouvez vous inscrire à notre lettre de nouvelles pour recevoir directement nos nouvelles productions dans votre boîte mail. C'est pas merveilleux? Mais si, c'est Couleur Terre. Cultivons la vie.
Couleur Terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Ollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sev, spécialiste en permaculture et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.